radio kecil, ngomong.
C'est l'un des pionniers de la bande dessinée classique en RDC. Baruti Kandololile l'a dit, Barry Baruti est l'invité de Grand Témoin. Nous lui disons bienvenue.
Bonjour Alain.
Barry Baruti, vous voyez le jour à Kisangani dans la province orientale où vous faites des études d'humanité pédagogique. Pourquoi ce revirement vers la peinture?
D'abord, je suis né dans une famille d'artistes, donc la peinture ne m'a jamais quitté, donc je suis resté dans ce monde-là tout le temps. Mon père, mes frères, mes sœurs font de la peinture, et ce n'est que normal que je sois resté dans cette espèce de mare-là, dans ces vases-là.
Mais racontez-nous un peu l'histoire de la bande dessinée au Congo.
Bon, c'est une longue histoire. Je dirais que moi, je suis entré dans la bande dessinée comme on entre en professionnel. Enfin, vraiment, je suis d'une manière un peu automatique. Mais la bande dessinée au Congo, je ne suis pas historien, je ne pourrais pas les retracer, mais je donne mon avis en tant que tout simplement bédéiste et un amoureux de bande dessinée. Pour moi, il y avait ces grands courants avec Mongita, qui était scénariste, qui était un grand homme de culture, et qui a fait aussi la bande dessinée. Il est intervenu dans certaines choses. On se souviendra, par exemple, de Mon Kwapamba, qui paraissait dans Antilope, déjà en 63. Et puis, il y a eu la grande vague des jeunes pour jeunes qui est arrivée. Bien sûr, avec des points avec nos grands frères tels que Mongo Hawaii Sissi, qui a fait pas mal de choses avec son personnage Bingo. Nous avons eu pas mal d'autres choses aussi, donc au niveau du groupe, enfin le groupe Salongo, mais le journal Salongo déjà à l'époque, avec Boyao. Qui faisait les caricatures dans Salongo, les caricatures sur le domaine plutôt sportif. Et puis, c'est vrai que c'est Jeune pour Jeune qui a révélé vraiment l'ampleur de la bande dessinée ici, avec Simon Lukombo, avec les Pamabilé, il y a eu des gens comme Assim Babati, ainsi de suite. Et puis bon, ben, nous sommes arrivés dans l'entretemps, on a lancé une nouvelle vague avec l'association Acria, Atelier Création Richesse.
Nous aurons l'occasion d'en parler dans la suite de l'émission, mais la bande dessinée classique, c'est en opposition à la bande dessinée populaire. Quelle différence il y a?
Je ne pense pas que c'est en opposition. Je crois que la bande dessinée dite classique, tout simplement parce que ça essaie de respecter certaines normes internationales. Mais on ne peut pas dire que voilà, ok, c'est beaucoup plus valorisant que la bande dessinée dite populaire. Je pense que c'est exactement la même chose. C'est une question aussi un peu de moyens, question d'ambition. Mais moi, je crois que les gens qui font de la bande dessinée dite populaire, ils ont le même mérite que nous autres. En fait, ce soit le même boulot. Je prendrais l'exemple de quelqu'un comme Fumoeto, justement, des Pamabilé, tous ces gens-là. Je pense qu'ils font un travail formidable.
Vous avez travaillé à la société textile de Kisangani, Sotexki. Quel était votre travail?
Mon travail était celui de concevoir des motifs textiles, de les réaliser, puis de l'amener à l'usine où il y avait en fait un traitement spécifique au niveau de l'usine pour en faire des pagnes. Donc j'ai travaillé là-bas pendant à peu près 3 ou 4 ans.
Et vous avez bien gagné votre vie.
Bien gagné ma vie, je ne dirais pas. Je ne dirais pas parce qu'on ne gagnait pas grand-chose. Je crois qu'à l'époque, on nous payait aujourd'hui l'équivalent, si faisait un thème textile, là, on te payait l'équivalent de, c'est pas moi, même pas de $10, hein. Et en plus de ça, on te donnait un petit morceau de tissu. Donc, on n'avait même pas le droit à avoir
un tissu entier. En 1986, Bob Demour vous accueille au studio Hergé. Hergé, qui, nous le savons, est le père de Tintin, Milou, Haddock. C'est lui qui vous guide vers la grande famille de la BD franco-belge. Comment vous vivez ces moments?
Ben, d'abord, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un des moments les plus marquants de ma vie. J'ai fréquenté l'ambassade de Belgique. Il y avait ce qu'on appelait le service culturel de l'ambassade. C'était le service d'information, mais ils ont mis un peu de la culture dedans. Avant, évidemment, que ça ne soit vraiment catégorisé et que maintenant, nous avons le centre de Bruxelles. Donc, il y avait ce service-là. Je suis allé là-bas et j'ai rencontré Bob Demore qui était venu pour faire une exposition sur la bande dessinée belge. On s'est rencontrés ici à Kinshasa. Et il a émis le vœu de vouloir me voir au studio Hergé. Hergé étant déjà mort. c'est lui qui était donc resté patron de ce studio-là, sur l'avenue Louise à Bruxelles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas.
Vous qui êtes l'un des pionniers de la bande dessinée et classique en RDC, Barli Barouti, vous avez collaboré avec Pascal Lokwakanza et Dieudonné Kabongo, ses compatriotes qui ont une renommée internationale. Mm-hmm. C'était dans quel cadre?
Il y avait une initiative qui était montée par le ministre Moumengi, Didier Moumengi. Il avait lancé, mais pas en tant que ministre, mais en tant que personne, il avait lancé quelque chose d'intéressant qui s'appelait en fait « J'aime sans toi ».« J'aime sans toi », alors c'était toi avec le dernier T du toi qui était entre parenthèses. C'était « J'aime sans toi », ça veut dire sans endroit, mais « J'aime sans toi » aussi sans toi personne pour le guider. Donc il avait lancé ça. Et il a pris contact avec certaines personnes pour que ces enfants puissent avoir des repères. Parmi ces gens, il y avait Dieudonné Kabongo pour tout ce qui était du théâtre, Lokwakanza pour la musique, et puis Mutopo Dikembe pour le sport.
Et vous pour la
et
bande dessinée.
Moi pour la bande dessinée.
Radio Capine, grand témoin.
Il est plus connu sous le nom Barli Barouti, Barouti Kandolo Lilela de son vrai nom. Et l'invité de grand témoin, c'est l'un des pionniers de la bande dessinée classique en RDC. Barli Barouti, vous avez lancé et publié plusieurs bandes dessinées, tant sur le plan national qu'international. À titre d'exemple, Kouakou et Kalao, Papa Wemba, La vie est belle, La voiture c'est l'aventure, Objectif Terre, pour ne citer que celle-là. De toutes vos publications jusqu'à ce jour, laquelle vous a le plus marqué et pourquoi?
Ben, je dirais d'abord, Kouakou et Kalao, donc je n'ai pas dessiné Kouakou et Kalao parce que c'était plutôt du fossé qu'il a fait, mais moi je m'occupais de la dernière page de Kouakou, de Kalao, et avec le gag sur Mouta et Mapeka, qui finalement est devenu un album chez Afrique Édition. Donc, c'était, je pense que Mouta et Mapeka est, c'est ça qui me marque le plus parce que c'est là où j'ai été en contact avec toute l'Afrique à travers Kalao. Après est venu de bandes dessinées de compétences internationales telles que Evaka et Mandrill, mais Mouta Mapeka pour moi c'est ça qui les marque le plus et je crois que ça a marqué beaucoup de gens.
Mais aussi il faut le dire, hein, ça c'était la fierté de voir le nom d'un compatriote hein, dans une revue de la France de Kalao et Kouakou. Hein.
Mais oui, c'est vrai que c'est une fierté, c'est une fierté. Moi je crois que c'est, d'abord, on croyait que c'était fait à l'Afrique de l'Ouest, alors que c'était fait à Paris, hein, par les éditions CG2. Et non seulement j'ai travaillé ça, mais j'ai travaillé aussi. Il y avait à un moment, dans tous les journaux d'Afrique, des bandes dessinées qui paraissaient, comme on le dit, à suivre. Et ils avaient fait ça, et j'ai travaillé là-dessus sur une série qui s'appelait Les Bolides. Et bien, cette bande dessinée a été publiée dans toute l'Afrique, dans tous les journaux, et puisque c'était gratuit en fait. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très marquant.
Entre 2003 et 2006, vous dirigez un lieu culturel de formation et d'information dénommé Espace à suivre. Quel en était l'objectif?
Ben, l'objectif d'Espace à suivre, comme son nom l'indique, c'était d'essayer de suivre des jeunes, de suivre des talents. Nous faisions donc ce qu'on appelle de la réinsertion sociale par les arts. Donc notre ambition, c'était de dire les gens qui avaient certaines compétences, comment arriver à essayer de renforcer ses compétences en essayant donc de trouver les moyens de faire des stages, soit par nous-mêmes, soit par des gens qui viennent des consultants, comme on dit. Et c'était ça notre but. Mais malheureusement, ça a dû s'arrêter brusquement, une petite pause, pour des raisons financières, tout simplement, parce qu'il faut dire que j'attendais beaucoup de l'État, parce que et puisse me soutenir un peu, parce que j'étais reconnu comme quelque chose d'utilité publique. Malheureusement, je n'ai pas eu ce que je comptais, c'est que ça veut dire que je n'avais plus assez de moyens, j'avais plus de subsides qui venaient de nulle part. Et si en plus de ça, j'avais plutôt des jeunes de Gérald qui venaient pour me demander des comptes, pour que j'aie des
taxes,
alors que j'avais déjà pas de quoi fonctionner. Donc j'ai dû arrêter. Et en plus, comme j'ai loué, c'était assez difficile. Et quand ça a commencé à marcher, vous savez comment ça se passe. Les loyers étaient multipliés par 3, donc j'ai dû arrêter. Et pour cela, je suis en train de relancer. Je prends les contacts avec la nouvelle administration, avec le pouvoir établi aujourd'hui. Et je pense que petit à petit, je suis en train de rentrer là-dedans pour reconstituer encore l'espace à suivre.
Vous venez d'énumérer une série de difficultés que rencontre l'artiste congolais. Et la question qui me vient à l'esprit, est-ce que l'artiste congolais peut vivre de son art?
L'artiste congolais peut vivre de son art et faire vivre des gens autour de lui. Tout ça est possible. Le problème, c'est d'arriver à canaliser toutes les énergies pour arriver à ça. Je pense qu'à partir du moment qu'on a du talent, il faut maintenant qu'il puisse avoir des structures qu'il faut, des infrastructures, pour que ce talent-là soit exploité à bon escient, afin que ça puisse servir et à l'artiste, et aux gens qui travaillent avec lui, et au développement. Moi, je crois que l'artiste peut vraiment vivre de son art. Aujourd'hui, si on parle, par exemple, du système de la banque aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est pas quelque chose à encourager, mais en même temps, ça se comprend. Puisque les droits d'auteur ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner, et ces gens-là doivent vivre, donc ils doivent trouver les moyens de faire quelque chose. Et pourtant, si tout ça était vraiment en place, on n'aurait pas besoin de ça.
Parli Barouti, pensez-vous que la bande dessinée peut contribuer au développement d'une nation? Si oui, comment?
Ben, je suis plutôt... la preuve, ça se voit tout de suite, hein, ça se voit tout de suite. Malheureusement, qu'on ne l'utilise que... quand on en a besoin et que pour le reste du temps, on laisse passer. Disons déjà que la bande dessinée, si on le prend, la bande dessinée, c'est déjà un peu la passerelle entre la culture que nous sommes plutôt issus d'une culture orale, entre cette culture orale et la grande littérature qui est aujourd'hui l'informatique. Donc, la bande dessinée peut aider, par exemple, à l'alphabétisation, la bande dessinée peut aider à la sensibilisation. Aujourd'hui, quand il y a eu des élections, on a fait recours à quoi? À la bande dessinée. Mais après, c'est comme si ça n'existait plus. Pour qu'on explique aux gens comment voter, comment écrire, c'était des dessins et des écrits. C'est ça, la bande dessinée. Ben, si on peut l'utiliser, par exemple, je suis très étonné de voir que pour les changements de mentalité, on ne s'intéresse même pas à la bande dessinée, alors que c'est vraiment l'outil qu'il faut, c'est l'outil par excellence pour ce genre de choses. Et nous espérons, et grâce à ces genres d'émissions, que les autorités feront attention un peu à ce qu'elles sont en train de dire.
Mais actuellement, nous avons l'impression que la bande dessinée a disparu de la société congolaise. Pourquoi?
Je ne pense pas qu'elle a disparu. Il y a toujours des choses qui se font. Hein. Il y a des choses qui se font. Il y a des gens qui font des efforts pour arriver à vivre de cet art-là. Ce n'est pas du tout facile. Hein. Si je prends l'exemple de quelqu'un comme Kizito qui a fait bleu-blanc, bon, c'est quelque chose qu'il a fait pour les écoles, qui devrait normalement marcher. C'est vrai que je n'entends plus beaucoup parler. C'est dommage. Il y a moins d'un magazine que Forêt a fait, où j'ai travaillé d'ailleurs, qui est tiré d'ailleurs à 80 000 exemplaires. Mais voilà, c'est là, mais les gens ne savent pas d'abord où aller lire. Avant, on allait lire partout.
Plusieurs organismes internationaux, vous l'avez dit, font appel à vos services dans le cadre de la sensibilisation de certains messages. Ces messages ont-ils un impact certain sur terrain?
Oui, ça a un impact. Hein. Je prendrai par exemple des choses qui sont faites. D'ailleurs, avec la Monique, je fais une bande dessinée justement pour expliquer les rôles de la Monique. Hein, il y a par exemple des associations telles que Locolé qui essaient de faire des choses, qui utilisent la bande dessinée. Il y a pas mal de gens qui utilisent la bande dessinée. Sur le terrain, ça arrive à savoir parce que la bande dessinée, il suffit tout simplement de changer les textes. On peut avoir la bande dessinée, c'était en français, on l'a en swahili, en lingala, en chiluba, en kikongo, mais tout ça, c'est montrer à quel point c'est si facile de communiquer grâce à ça. Même les gens qui ne savent pas beaucoup lire, ils vont déjà se contenter des images et il y a toujours quelqu'un à côté pour leur expliquer. Je trouve, à mon avis, que c'est l'outil par l'excellence.
Actuellement, vous évoluez dans une nouvelle formule dénommée Congo Nostalgia ou la rumba congolaise revisitée. C'est quoi ce concept?
C'est un concept que j'ai mis en place il y a voici maintenant 3 ans où j'essaye de revaloriser la rumba à ma manière. Ça veut dire quoi? Je veux expliquer que la rumba n'est pas seulement limitée, ne doit pas se limiter seulement à la danse et à la musique comme telle. C'est tout un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre même. J'en ai discuté avec mes aînés, et c'est comme ça que je suis encouragé par mon grand frère, l'honorable Taboulé. Je suis encouragé par Lutumba, et chez qui je vais toujours puiser des conseils là-dessus. Et d'ailleurs, pour ce faire, il y a même un album qui est en préparation, à part mon album personnel, un album justement où je vais revisiter les chansons de Lutumba et les chansons de Taboulé.
Vous l'avez compris, chers auditeurs, Barly Baruti est aussi artiste musicien. Parlez-nous de votre carrière musicale. Combien d'albums à votre actif?
Au niveau des albums, j'ai sorti d'abord un album qui est personnel, qui s'appelle Ndouguyangou, qui veut dire mon frère. Cet album, je l'ai sorti il y a déjà pas mal d'années, je crois que c'était en 97. Ça, je l'ai sorti donc quand j'étais à Bruxelles. Et puis, j'ai sorti d'autres albums collectifs avec d'autres personnes, donc entre autres avec la RTBF, j'ai sorti quelques albums. Mais c'était des albums collectifs où j'ai joué avec d'autres artistes européens. Et là, maintenant, je travaille sur un nouvel album, justement, avec le concept Rumba Distribution, qui est la Rumba Revisité.
Et ça fait à peu près combien de temps que vous êtes dans la musique?
Il y a très longtemps que je suis dans la musique. Et donc, j'ai commencé la musique donc, quand j'ai vécu dans les tréteaux, petit Samani. Et ça, c'était... Il y a une vingtaine d'années, quoi. Il y a une vingtaine d'années. Et c'est là que j'ai commencé aussi à jouer de la guitare. Les gens sont parfois surpris de me voir en train de jouer la guitare ou de chanter, mais je l'ai depuis très longtemps.
Et quand on vous a posé la question en début d'émission, avant l'émission, dans les coulisses, vous nous avez cité des noms, D.S. Mukangi, Kulmatope,
Alpha, qui est un jeu de Zaiko, Modeste, qui est un jeu de Zaiko. Je connais énormément de gens, hein. Je connais énormément de gens de ce monde-là. On a beaucoup travaillé avec, avec des musiciens de Banaoke, par exemple. On travaille beaucoup, en coulisses. On a beaucoup travaillé avec Loko Kanza, avec pas mal d'autres personnes. Ouais.
Alors, nous avons contacté quelqu'un pour vous. Il est en ligne et nous allons le laisser se présenter.
Oui, merci à la Radio Capi pour l'invitation. Moi, c'est Cool Matopé. Je suis très, très, très heureux d'entendre mon grand frère Barly Baruti. Et je ne peux que le saluer et le féliciter.
Et Barly qui est très content, hein, Cool Matopé, il a esquissé un très beau sourire. Barly, vous avez quelque chose à dire à Cool?
Bon, ben, j'ai pas dit toujours en cours que c'était un disciple, si on peut dire comme ça. Bon, certaines personnes diront que c'est prétentieux, mais on se connaît, donc il sait de quoi je parle. Mais c'est aussi un jeune qui est resté constant dans ce qu'il a voulu faire, depuis qu'il a commencé à faire son travail, et il est fait très bien. Et partout où je vais, je cite son nom. Et quand, par exemple, il interprète une de mes chansons, et les gens croient que c'est par hasard, et bien non, c'est un frère.
Et Barly Baruti, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer un point, c'est que dans la bande dessinée Mouta et Mateka,
oui,
la personne me disait, mais j'ai l'impression que Barly Baruti a dessiné Kulmatope.
Oui, il y a un passage où j'ai aussi dessiné. J'étais encore tout mince, et j'ai dessiné Cool. Je l'ai viré d'ailleurs parce que.
Moi, j'aimerais donner un témoignage. Je crois que je l'ai dit souvent. Je répète aujourd'hui. Parmi les premières personnes qui m'ont vu prendre le micro et chanter pour la première fois, il y a effectivement Barly Baruti. Et parmi les tout premiers qui m'ont enseigné comment chanter dans un micro, comment suivre, je me rappelle, ils jouaient la guitare, quand j'amenais un petit quelque chose qui ressemblait à un chant, c'est lui qui faisait les accords, qui me montrait comment chanter
dans la gamme.
Donc c'est un grand frère et un professeur en même temps. Et je suis fier de lui, quoi.
Merci.
Je prie toujours. Évidemment, il est dessinateur. Je crois que c'est l'un des plus grands au monde. Je pèse bien mes mots parce que les autres, les RG, etc., c'est parce qu'ils ont eu, ils sont arrivés avant et ils ont eu toute la structure avec eux. Je crois que dès que vous mettez les mêmes structures à la disposition de Barly, et les gens sont tout de suite étonnés parce qu'il fournit un travail de grande qualité. Donc c'est une fierté et un monument national pour nous qui sommes congolais. Mais je prie toujours qu'il trouve du temps pour la musique. Malheureusement, il trouve toujours pas beaucoup de temps parce qu'il est toujours entre n'est pas entre un contrat en train de faire la bande dessinée par-ci par-là, il va des ateliers, former des BDistes, etc. Mais il trouve jamais le temps pour la musique et c'est ma prière qu'il trouve ne plus qu'une année où il va s'asseoir. Dieu seul sait si c'est possible ou pas. Et ce jour-là, quand il va s'asseoir et faire sa musique et travailler, je crois que on découvrira l'autre dimension
de Barry Barutti. Amen. Alors, Barry Barutti est cool, ma tante. Nous allons fêter ces retrouvailles en écoutant une chanson que vous a dédiée quelqu'un que vous devez certainement connaître, c'est Bob Landau.
Et là,
il vous propose la chanson que nous allons suivre. Barry Barutti, vous connaissez la chanson?
Bien sûr que je connais la chanson. Absolument, au Gold de la peine.
C'est l'une de vos chansons.
Oui, absolument.
Et vous connaissez également Bob Landau qui vous l'a dit.
Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours, on est toujours là comme ça. Vous savez, quand on travaille sur la musique. Il y a les gens qui font la musique, il y a les gens qui apprécient la musique, et il y a les gens qui font faire la musique. Et il en fait partie.
Et cool, Matope. Vous connaissez également Bob Landau?
Oui. Mais avant de répondre à la question, je voulais signaler un truc. Vous entendez la guitare, là, c'est Philippe Catherine. Et Philippe Catherine, c'est un des meilleurs guitaristes belges de jazz. Hein.
Ah oui, merci pour la précision.
Je peux vous dire que parmi, même en musique, c'est pas n'importe qui.
Merci.
Bob Landau, ça c'est quelqu'un qui soutient beaucoup, nous qui sommes dans la musique, nous sommes acteurs. Et vraiment que Dieu le bénisse pour son soutien et ses encouragements. Voilà.
Et pour nos auditeurs, nous signalons que Bob Landau, c'est l'un des techniciens radio au Capi, qui est à la fois copain à Barry Barutti et à Kool Matope. Alors, continuons à suivre la chanson. Merci à Bob Landau d'avoir proposé cette chanson à Barry Barutti et Kool Matope. Avant de nous séparer, Kool Matope, avez-vous un petit mot à dire à Barry Barutti?
Non, sinon, encore, allez, va de l'avant, mon frère. et l'avenir est à toi. Ça, je n'en doute pas un seul instant. De plein succès dans la bande dessinée et également en, en musique. Je sais que année on a année Zoya, grand frère Zario.
Merci.
Alors, Barry Baruti à Koulbatopé.
Ben, je voulais seulement dire déjà aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, que à ce qui concerne ces petits discours que je vais sortir maintenant, je voulais seulement dire ceci aux auditeurs, que ne soyez pas étonnés, frères, sœurs, qu'un jour vous nous voyez côte à côte avec Cool en train de jouer et de chanter. Je suis frère aussi, je crois en Dieu. Et il est frère. Hein? Donc, ma séparatisme est à la tête. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je voulais demander bien qu'on soit très loin l'un de l'autre. Est-ce que ça te dérangerait d'entonner tellement au sol? Alors, on essaie de faire un petit duo comme ça pour les auditeurs, rien que quelques secondes.
Quelques secondes, Dieu.
Il n'y a pas de problème.
Tu entonnes.
Papa, tu es là.
Alors bravo, bravo.
Tu vois qu'on peut m'avoir au cahier là.
Alors merci Koulbatopé. Au revoir.
Merci à vous, je vous bénisse.
Alors Barly Baruti, nous revenons à vous. Vous avez aussi vécu la situation politique, l'évolution politique de la RDC depuis les années Mobutu, Laurent Désiré Kabila et jusqu'aux élections. Quelle lecture vous, en tant qu'artiste, vous faites de la situation politique du pays?
Bon, j'ai pas envie de dire en tant qu'artiste, même en tant qu'être humain, parce que c'est vrai que je suis né, j'ai grandi à Kisangani. C'est quand même la terre où beaucoup de choses se sont passées. Hein. Quand il y a des plaies, ça commence toujours par là. À Kisangani, depuis Lumumba jusqu'à maintenant d'ailleurs, la guerre des six jours et tout. Bon, je dirais tout simplement que il serait temps qu'on puisse laisser aux artistes le temps d'essayer un peu de peindre la société et d'être témoin de l'histoire justement. Par rapport à pas mal de choses. Peut-être qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions que les gens ne voient pas. Parce qu'en fait, les gens attendent beaucoup. Ils attendent beaucoup. Mais s'ils savaient d'où on venait, tout ce qu'il y a eu, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà très, 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 très loin. Mais il ne nous reste qu'une seule chose. Et la grande guerre que nous avons gagnée, c'est la guerre du cœur. Qu'on arrive à avoir la paix du cœur vraiment.
27 ressortissants congolais refoulés du Maroc et d'Algérie se retrouvent bloqués dans le nord du Mali. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP l'administrateur de la Commission nationale malienne chargée des réfugiés le 24 septembre dernier. Après que leur tentative d'émigration clandestine ait échoué à la frontière algérienne, ses compatriotes ont fait un trajet de plus de 13 jours pour atteindre le nord du Mali, a affirmé l'un de ses expulsés. Réaction, Barly Baruti, vous qui avez sillonné plusieurs pays.
Mais la réaction, c'est d'abord de dire, je crois que c'est le problème d'immigration. Les problèmes d'immigration, ça c'est un grave problème. Et je crois, à mon avis, qu'on devait faire attention. Je crois même que ce serait bien de sensibiliser les gens à partir d'ici. L'Eldorado européen, où on croit que quand on va là-bas, on arrive, tout est vraiment ceci, et tout va bien, c'est le paradis, ben, on devait faire attention à ça. Voilà, maintenant des choses qui arrivent à nos compatriotes comme ça, ça fait mal au cœur. D'autant plus que même s'ils arrivent en Europe, ce n'est pas dit qu'ils seront au paradis. Quoi.
Et Barly Baruti, en revenant à la bande dessinée, après vous, la relève est-elle assurée?
Je pense que la relève est assurée. Quoi que je suis encore en pleine activité, mais j'ai, grâce à des choses comme Espace à suivre, à CRIA et tout ça, nous avons beaucoup de chance d'avoir des gens, c'est pas que c'est moi qui leur ai appris à dessiner, qui étaient déjà là, ben on a contribué comme d'une certaine manière ou d'une autre à les encadrer, mais nous avons une grande relève. Je vais commencer déjà par vous citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Tembo Cash, Et ben Tembo Cash vient de sortir un album avec un des grands scénaristes européens qui s'appelle Di Chateau, qui est le scénariste en fait de Chic Bill, de Ricochet. Il y a Alain Paloukou qui a sorti un album il y a pas longtemps en Europe et qui continue à sortir encore un autre. Il y a notre frère Pat Massioni qui a sorti un album, mais pour l'instant au niveau de la bande dessinée africaine, les Congolais sont devant, donc là il y a aucun souci.
Alors nous tendons vers la fin de cette émission, Barli Barouti, un mot à tous les jeunes Congolais qui s'intéresseraient à la bande dessinée.
Ben je leur dirais que c'est quelque chose de noble. Qu'ils doivent, s'ils veulent rentrer là-dedans, ils doivent avoir beaucoup de temps, donc ça veut dire beaucoup de persévérance. Sur les 100% d'une réussite, il y a 20% de talent et 80% de persévérance.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions Barouti Kandolo Lile, l'a dit Barli Barouti, l'un des pionniers de la bande dessinée en RDC, à qui nous disons merci d'être venu. À la réalisation, Nadine Foula, à la technique, Patrick Kiasongwa. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Au revoir.